Le procès des auteurs de l'attentat du Petit Clamart contre le président de la République s'est ouvert le 28 janvier 1963 devant la Cour militaire de justice au Fort Neuf de Vincennes. Après 15 jours de débat, Maître Jacques Isorni, défenseur de deux des accusés, est amené à donner lecture d'une lettre à lui adressée par M. Francis Boyer qui visait à mettre en doute l'impartialité de l'un des juges de la Cour. Cet incident a conduit le procureur général militaire à déposer des réquisitions tendant à infliger à Maître Jacques Isorni la peine disciplinaire la plus grave qui puisse frapper un avocat, la radiation du barreau. Ainsi s'est ouvert, à l'intérieur du procès dit du Petit Clamart et en incidence, un autre procès où c'est l'un des défenseurs, Maître Jacques Isorni, qui est placé dans la position d'accusé. Ce procès s'est déroulé en 24 heures et s'est dénoué le 6 février 1963. Réquisitoire du procureur général, plaidoirie de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, assurant la défense de son confrère, déclaration de Jacques Isorni. Ce sont ces deux derniers documents que nous présentons ici. Voici la plaidoirie de Jean-Louis Tixier-Vignancourt.
Monsieur le Président, Monsieur le Procureur militaire, Messieurs, Monsieur le bâtonnier, mon confrère Jacques Isorni m'a fait le grand honneur de me demander de défendre. Je vais remplir cette mission en m'inspirant des faits qui se sont réellement déroulés à l'audience d'hier, et pour mieux m'en inspirer, je vais, si vous le voulez bien, les analyser. La défense vient de déposer une demande en récusation concernant M. le procureur militaire Rebouille. L'avocat qui a déposé ses conclusions y ajoute un certain nombre d'explications verbales. À ce moment, Maître Isorni demande la parole. La parole lui est accordée. Il indique à la Cour militaire de justice qu'il a reçu par pneumatique de M. Francis Boyer une lettre dont il lui paraît qu'elle est de nature à apporter un réconfort à la procédure de récusation qui vient d'être entamée à l'égard d'un membre de la Cour militaire de justice. Je m'arrête, messieurs, un instant pour souligner en premier lieu que la démarche de Maître Isorni, en l'espèce, ne constitue à l'égard de la Cour militaire de justice ou à l'égard du ministère public aucun acte pouvant constituer une faute contre le règlement de l'ordre des avocats ou un manquement à son serment. Il a agi dans l'intérêt de son client et au sein d'une défense solidaire. Il n'y a rien qui, de bonne foi, bien entendu, puisse lui être reproché. Sur quels faits se fondent donc les réquisitions aussi brèves qu'impitoyables de M. le procureur général? Elles se fondent sans aucun doute sur le fait que cette lettre émane d'un imposteur. Voulez-vous, messieurs, en effet, ne pas oublier que lorsqu'un avocat peut commettre une infraction à l'audience, il n'y a point besoin pour prendre des réquisitions, surtout aussi brèves, d'en délibérer avec soi-même pendant 1h15. C'est un argument de bon sens. Quand je dis en délibérer avec soi-même, je n'en suis pas certain, puisque je ne sais pas si Monsieur le procureur général n'a point été consulté. Ce n'est donc pas ce que nous pourrions appeler une infraction instantanée. Et cela l'est d'autant moins que lorsqu'on se reporte à la sténographie des débats et qu'on lit l'intervention de Monsieur le procureur militaire Rebouille, il n'apparaît pas que celui-ci se soit plaint d'un outrage quelconque qui lui eût été adressé. Il s'est plaint essentiellement de l'incorrection, c'est le mot qu'il a employé, consistant à lire la lettre à l'audience avant de la lui avoir communiquée. Je n'accepte pas, messieurs, le mot incorrection. Pourquoi ? Parce qu'une demande en récusation, je le rappelle, a été déposée et qu'il n'existe pas de communication entre les deux parties dans l'examen d'une demande en récusation. Mais il n'apparaît pas du tout que le magistrat visé ait considéré qu'il y avait un outrage à son égard. D'ailleurs, il n'a pas nié le propos rapporté dans la lettre. Il s'est borné à indiquer qu'il n'avait point gardé mémoire du nom de M. Boyer. C'est tout. Dans ces conditions, il nous faut bien admettre que c'est sur l'argument largement repris par les organes d'information écrits ou parlés que le reproche essentiel fait à mon confrère était d'avoir lu une lettre sans se préoccuper de la qualité du signataire et de la véracité du texte qui lui était parvenu. C'est bien cela. J'ai le regret de dire à M. le procureur général que ce serait assez mal connaître mon confrère Isorny de penser un seul instant, ayant reçu cette lettre, il l'a placée dans son dossier et sans autre, est venu à la cour militaire de justice pour en donner lecture. Non, M. le procureur général, Maître Isorny est un avocat qui a prêté serment en 1931, c'est-à-dire il y a 32 ans. Il ne procède point ainsi. Il a vérifié la qualité du signataire et s'est fait confirmer la réalité des propos. C'est seulement, à ce moment-là, il est venu ici et dans l'exercice, non point seulement de sa profession, mais de la mission qui lui avait été donnée par M. le bâtonnier de notre ordre. C'est-à-dire, en qualité d'avocat commis d'office, il a accompli, après avoir manifesté la prudence et l'esprit de vérification nécessaire, un acte dépendant étroitement de cette mission. S'il ne l'avait pas accompli, il eût été précisément infidèle à son serment, qu'il oblige, dans le cadre de la défense des intérêts qui lui sont confiés, à ne rien négliger, pour éclairer la juridiction devant laquelle il a l'honneur de se présenter. Et cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'éclairer cette juridiction au cours d'une procédure en récusation, qui est une procédure grave et qui met en jeu les articles, heureusement les moins usités, du code de procédure pénale. Monsieur le procureur général, quand vous avez hier requis, vous avez déclaré qu'un individu, c'est votre mot, nommé Boyer, avait tenté de s'introduire dans la justice militaire en Allemagne, et que sur vérification de ses titres, il avait été remercié. Vous mesurez, messieurs, le poids de mépris et de dédain, qui n'est point la même chose, que monsieur le procureur général a mis dans ses propos à l'égard de monsieur Francis Boyer. Et c'est, messieurs, sur cette base et sur nul autre qu'il a demandé à la cour militaire de justice de prononcer la radiation du barreau de maître Isorny, simplement. J'ai le profond regret de dire à la cour que M. Boyer a été mobilisé en avril 1945 comme officier de contrôle adjoint à l'administration des forces militaires françaises en Allemagne. Tel est le point de départ de la carrière de l'individu. Il est demeuré 18 mois à Berlin et il a été ensuite envoyé en Rhénanie où il occupait des fonctions judiciaires. Puis, nommé attaché d'administration, il a été affecté, sans avoir, dans le cadre de sa mobilisation, jamais rien demandé. Il a été affecté comme juge au tribunal des crimes de guerre à Rastatt le 1er août 1947. Il a quitté le 31 décembre 1949 le tribunal des crimes de guerre pour le motif que cette juridiction avait achevé sa tâche. Voici, messieurs, quel est l'homme sur lequel monsieur le procureur général vous a dit qu'il faisait prendre des renseignements pendant 1 h 3/4 de suspension hier matin. Mais pourquoi donc, monsieur le procureur général, faisait-il prendre des renseignements? Il était lui le plus à même de les connaître, car au tribunal des crimes de guerre de Rastatt, il a requis devant monsieur Boyer, oui, vous, monsieur Boyer, qui vous connaît très bien, et avec lequel vous avez eu des relations non point prolongées à Rastatt, assez brèves, mais suffisantes pour qu'aucune sympathie particulière ne vous eût unie. Et pendant 2 ans et demi, monsieur Boyer a donc siégé, et il a siégé peu souvent avec monsieur Reboul, pour le motif que monsieur Reboul n'a pas siégé très souvent. Monsieur Le Merle, ancien procureur général d'Oran, était le président ou le responsable de ce tribunal de Rastatt. Alors l'imposteur, messieurs, l'imposteur, celui qui avait voulu rentrer dans la justice militaire, mais qu'on avait chassé, voilà quelle est sa carrière. Et me direz-vous pourquoi n'est-il pas venu à cette barre comme témoin? Bien, messieurs, d'abord, c'est que s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu rentrer. Puisque vous savez que l'audience est publique par la voix de la presse et des cartes d'invitation, mais que si le citoyen moyen, en l'espèce monsieur Boyer, se présentait à la porte de la caserne du Fort Neuf de Vincennes, il serait refoulé. Mais il y a une seconde raison. C'est parce qu'il a été entendu hier, hors des heures légales. Mais l'essentiel, c'est qu'il l'ait été. Par monsieur Ottavioli, commissaire principal, adjoint monsieur Bouvier, commissaire divisionnaire, chef de la brigade criminelle. Monsieur Boyer a raconté dans un procès verbal sa carrière. Elle est toute simple. C'est celle que je viens de retracer à la cour militaire de justice. Cela, bien entendu, ne faisait point du tout l'affaire de l'enquêteur, qui avait été chargé d'enquêter beaucoup moins sur la carrière de M. Boyer, que l'on peut arranger au gré des instants, mais sur les sentiments qu'il avait guidés pour écrire cette lettre, et surtout, quels étaient les rapports, nécessairement honteux, qu'il avait eu à entretenir avec les avocats, ou avec tel ou tel avocat. Il se trouve, messieurs, monsieur le Président, que c'est un homme qui était parfaitement inconnu de la totalité des membres de la défense, manque de chance pour l'enquêteur. Et en second lieu, monsieur Boyer a indiqué, nous en avons trace dans les journaux de ce matin, puisque le secret de l'information s'applique peu aux auditions de monsieur Boyer, il nous a indiqué qu'il a agi par scrupule de conscience, et qu'il a voulu faire connaître à l'un des avocats. Et il a choisi Maître Isorni. Il aurait pu choisir Maître Richard Dupuis, ou moi-même, ou tel autre de mes confrères, qu'à l'occasion des fonctions qu'il avait exercées, M. Reboul lui apparaissait comme un magistrat qui, d'après la réflexion qu'il reproduisait et qu'il avait entendue, était soucieux de condamner avant tout. Et cela avait causé une impression pénible, et qu'à l'occasion des contestations qui s'élevaient alors sur la légalité de la présence de M. Reboul dans la cour militaire de justice, il avait tenu à faire part de ce fait à Maître Isorni. Alors, messieurs, la base sur laquelle on vous a demandé la radiation de Maître Isorni, où est-elle, cette base? Elle s'effondre. Elle s'effondre de manière complète. Et messieurs, si d'aventure vous n'en étiez point persuadés, ah, vous auriez alors le devoir de faire venir à cette barre monsieur Boyer, qui s'est entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire, pouvant prêter serment, et sur la foi du serment, il vous dirait ce qu'il a déjà déclaré. à M. Ottavioli, commissaire principal de police. Il a été plus loin et une question lui a été posée. M. Reboul dit qu'il ne vous connaît pas. M. Boyer a répondu par un « Oh !» de stupéfaction. Vous pourrez lire tout cela dans l'ensemble des journaux de ce matin. Si par contre, messieurs, vous n'éprouvez point le besoin de faire venir à la barre M. Boyer, dès que vous êtes convaincu qu'il a dit la vérité sur sa carrière et sur son entretien avec M. Reboul, alors que reste-t-il? D'abord, messieurs, il ne reste aucun outrage à magistrat. Car Maître Isorni, ne l'oublions pas, s'il vous plaît. J'ai vu retirer la parole alors qu'il venait à peine d'achever la lecture de la lettre. Et la parole a précisément été donnée à M. le procureur militaire Reboul par M. le Président. Ainsi, Maître Isorni a été privé de la possibilité d'assortir cette lettre du moindre commentaire pour expliquer les conditions dans lesquelles il l'avait reçue et pour apporter sur son auteur les précisions qu'il était indispensable de connaître. Alors, messieurs, du chef de Maître Isorni, que reste-t-il? Un outrage à magistrat? Il n'en a, lui, proféré aucun. Du chef de M. Boyer. Est-ce un outrage à magistrat de rappeler la conversation qu'il a eue avec M. le procureur militaire Reboul? À aucun titre. Et tout au contraire. Il s'agissait là d'une pièce absolument indispensable pour la défense de Maître Isorni avait le devoir de lire. Monsieur le bâtonnier, ce matin, a dit que si Maître Isorni avait remis la lettre à Monsieur le Président de la Cour militaire de justice, celui-ci en aurait donné lecture, comme lecture doit être donnée de toutes les pièces parvenant à la juridiction de jugement et qui peuvent avoir une incidence sur le jugement du procès. Est-ce qu'à ce moment, Monsieur le Président de la Cour militaire de justice, je serais dû imputer je ne sais quelle incorrection à l'égard de M. Reboul? Absolument pas. Et M. le Président de la Cour militaire de justice aurait fait son devoir en en donnant l'excuse. Alors, c'est donc parce que c'est Maître Isorni, Maître Jacques Isorni, qui a donné lecture de cette lettre, que vous demandez, après 1h15 de délibérer avec vous-même, sa radiation du barreau, c'est parce que c'est lui. Ah, messieurs, nous sommes alors dans l'obligation de nous poser un certain nombre de questions. Il y a eu, la Cour militaire de justice s'en souvient, un léger incident avec Maître Isorni au début de ses débats. Et le lendemain, monsieur le procureur général, Sudacar a pris la parole. Monsieur le représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats a pris la parole. Maître Isorni également. L'incident a été considéré comme devant être clos. Pourquoi donc? Si matière à incident il y avait, il n'y en a point. N'en a-t-il pas été de même hier? Oh, je ne pense pas, bien entendu, que le fait que monsieur le procureur général Sudacar ait été remplacé par monsieur le procureur général Vertofer et modifié la procédure en la matière et les usages de l'audience.